Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, mon invité ce matin est écrivain, réalisateur et historien du cinéma. Et en sa qualité d'historien du cinéma, il lui arrive de sillonner le pays pour présenter des grands classiques. Il lui arrive aussi de présenter ses propres films. Noël Herp est mon invité. Le titre de son ouvrage édité chez Bartilla, c'est « Souvenirs écrans, voyage en France en 2017-2018 ». On en parle dans un instant.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Mais avant d'en parler, bonjour Noël Herp.
Bonjour.
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment l'antidote du Festival de Cannes.
Oui, oui, j'aime bien ce concept. C'était pas concerté. Bah, c'est d'autant plus drôle que j'ai été conseiller de Gilles Jacob pendant des années, donc je connais le Festival de Cannes de l'intérieur assez bien quand même. Mais c'est vrai que c'est un peu un livre d'adieu à la cinéphilie aussi, une certaine cinéphilie obsessionnelle qui a pu me caractériser comme pas mal de gens de ma génération. Et le cinéma s'éloigne, hein. On a dit jadis, Barrès s'éloigne. Bah, aujourd'hui, c'est plutôt le cinéma qui s'éloigne un peu en tant qu'entité mystérieuse, magique, quand l'aura du cinéma, disons, s'éloigne pour devenir quelque chose de peut-être plus diffus, plus banal, plus internaute. Voilà, et les étudiants ne regardent plus que des séries, il n'y a plus beaucoup de gens dans les salles pour voir des films de Clouzot. Je me promène dans ce livre un peu comme le fantôme de la cinéphilie qui a été la mienne et que j'essaie quand même de ranimer avec l'aide de quelques Don Quichotte des cinémas de région qui continuent d'entretenir la flamme, souvent des associations.
Et qui vous invitent.
Qui m'invitent.
Et vous racontez ces voyages, hein. Mais quand je dis que vous racontez ces voyages, c'est-à-dire vous passez plus de temps à raconter les voyages, les villages, les quartiers, les banlieues, les petites villes qui vous accueillent plutôt que les films que vous commentez, que vous analysez, que vous présentez.
C'est pas un livre sur le cinéma, à vrai dire. C'est un livre sur, encore une fois,
comment le cinéma vous a permis de connaître en profondeur ce pays, peut-être.
Oui, disons, j'ai l'impression que je suis un peu là, un peu détaché de moi-même, un peu détaché d'un certain nombre de passions qui ont pu m'animer. Je pense que c'est dans ce détachement que je retrouve une certaine poésie un peu paradoxale, la poésie des terrains vagues, la poésie des espaces déserts. Je pense qu'il faut parfois faire un peu l'expérience du délaissement et même d'un certain néant pour arriver à donner un coup de talon et à retrouver une certaine vitalité. C'est un paradoxe. Je termine le livre comme ça, dans une espèce de terrain vague de banlieue, à côté de Pantin, c'est pas très loin de Paris. Là, je reviens vers Paris, mais c'est toujours un peu la banlieue, les paysages délaissés, et j'y trouve une espèce d'épiphanie un peu presque mystique. Je pense que voilà, ce livre est pour moi un peu une expérience de la désolation et en même temps de la drôlerie, parce que je crois que le livre est assez drôle et je m'amuse de ce côté fantomatique d'une France qui est pas simplement la France cinéphile, qui est aussi la France d'aujourd'hui, hein, un pays où il y a plus beaucoup de désirs, où les restaurants ferment à 8h du soir, où on vous met dehors des chambres d'hôtel à 9h du matin, où vous avez l'impression que c'est un pays où il y a plus beaucoup de flammes, la France, quand même.
Ah, il y a quand même quelques braves résistants qui continuent à projeter des films d'auteur dans des bleds reculés, on peut le dire aussi, ça, Noël Herp. C'est ça, d'ailleurs, le thème de votre livre « Souvenirs écrans ». Ce sont vos voyages en France, en 2017, en 2018. En tant que commissaire de l'exposition Clouzot à la Cinémathèque française, vous avez été amené à accompagner ces plus grands films, la projection de ces plus grands films dans toutes les salles de France, d'art et d'essai. Vous avez donc sillonné une quarantaine de villes.
Oui, tout à fait. Non, quand je dis qu'il n'y a plus de flammes, il y a sur des foyers. Cette cinéphilie un peu passée de mode en éteint. Et je pense faire partie de ces Don Quichotte qui continuent à croire à des valeurs du passé qu'on nous a transmises. Mais je ne veux pas non plus m'installer dans une attitude passéiste. Je pense qu'il y a un mélange un peu de mélancolie et d'humour dans tout ça et dans le fait de continuer à exister dans les ruines. Hein. C'est un peu mon parcours. Et il me semble que par rapport à mes précédents livres, je vais un peu de plus en plus loin dans cette tension entre le passé et le présent. Dans ce voyage dans la France profonde, il y a la recherche de mes propres, je n'aime pas trop le mot de racine, mais de mes propres origines familiales, de mon histoire familiale, qui est un peu un puzzle en morceaux. Je viens d'une famille de bourgeoisie désargentée, mon père et ma mère se sont séparés assez tôt, je suis finalement l'enfant d'une bourgeoisie déchue, et en même temps j'ai besoin, comme ça, j'ai toujours eu besoin d'ailleurs, de recoller les morceaux de mon passé, de croire que j'avais malgré tout un passé prestigieux. Alors je vais là, je profite de cette tournée en province que j'ai faite l'an dernier sous le signe de Clouzot, j'en profite vite pour non seulement pour retrouver des traces de films de Clouzot d'ailleurs, par exemple à Niort, sa ville natale, mais aussi pour retrouver les traces de mon passé familial à Bergerac, où ma mère juive a été cachée pendant l'occupation, à Verrières-du-Lac, où mes parents ont été heureux dans les années 60, ça n'a pas duré très longtemps, et je me souviens de photos qui me permettent de reconnaître les lieux, parfois à 8 heures du soir, on voit plus rien, les exploitants locaux acceptent de m'accompagner avec une lampe de poche, etc. Et on arrive quand même à voir des bribes de fragments, de fantômes de ce qui a été, et j'y trouve un plaisir, je dirais pas nostalgique, mais mélancolique.
Il n'y a pas seulement votre histoire familiale qui vous accompagne dans ces voyages, ni le cinéma, ni les films, il y a aussi la littérature, beaucoup de littérature.
Tout à fait, parce qu'il y a les trains aussi. Alors, il y a les trains, alors c'est pareil, il y a toujours les problèmes de la France d'aujourd'hui, les trains qui marchent pas, les trains qui partent pas, les trains qui arrivent pas à l'heure, etc. Mais ça a un avantage, c'est que ça permet de lire. Donc, ça me permet de me plonger dans Julien Gracq, de croiser des gens qui lisent Mauriac, de me plonger dans les chroniques de Léon Daudet qui me font hurler de rire, de relire comme ça beaucoup de choses.
Et de retrouver la carte et le territoire de ces écrivains.
Oui, une sorte de carte du tendre littéraire et cinématographique, mais effectivement... Bizarrement, ce voyage où j'étais un peu une sorte de trublion, où j'étais censé faire l'article pour des films et où j'étais très en représentation, car je suis quelqu'un qui aime se donner en spectacle à tous les niveaux, en même temps m'a amené quand même à un certain voyage intérieur qui me ramène à mes fondamentaux littéraires et aussi quand même à une certaine réflexion sur moi-même. Il se trouve que je dois quand même le préciser que c'était... Ce livre est parti d'un projet que j'avais initialement de faire un livre de promenade où je me serais baladé un peu au hasard dans Paris. Il en reste quelque chose, le préambule et la conclusion du livre.
Et d'autant plus que vous préférez justement déambuler dans les quartiers que vous ne connaissez pas à Paris, qui est quand même votre ville, c'est là où vous vivez, Noël Herpe.
Bah oui, on est toujours ramené à soi-même finalement. Donc je me balade, je pars le matin. Enfin, il y a deux textes comme ça qui encadrent donc le livre, qui est conçu un peu comme une sorte de retable ou de trilogie. Et je me balade et je vais un peu au hasard. Et comme par hasard, là aussi, je retombe sur des lieux de mon enfance, le Mont Rouge de ma grand-mère, des endroits comme ça qui sont désenchantés et où j'essaie quand même de retrouver une poésie. Je pense que c'est au fond peut-être un peu ce qui définit mon propos, c'est d'essayer de retrouver une poésie dans le désert.
Dans le regard ou dans l'écriture, dans les deux, Noël?
Les deux, l'image et les mots. Quand je me promène, je pense pas que je vais écrire, mais je retrouve quand même... Alors parfois j'écris des choses et je retrouve dans l'écriture des épiphanies que j'ai pas vécues sur le moment. Parfois, je trouve des occasions de me marrer que j'avais pas forcément sur le moment où j'étais plutôt déprimé. Donc l'écriture me permet quand même d'injecter de la poésie dans la banalité de ma vie.
Vous vous sentez solitaire, Noël Herpe, dans la société d'aujourd'hui ?
Oui, je me sens solitaire pour bien des raisons, mais c'est aussi un journal de deuil parce que je venais de vivre une rupture amoureuse qui évidemment me laissait un peu fantomatique là encore. Oui, je me sens solitaire car j'ai l'impression que mon rapport au cinéma, mon rapport à la fiction est quelque chose que j'ai du mal à partager aujourd'hui, cette croyance à la fiction, au prestige de la fiction, quelque chose auquel je continue à croire malgré tout, et au fond on est dans un monde terriblement réel, de plus en plus réel. Internet nous confronte en permanence à la réalité terrible du monde et à une sorte d'interdit de rêver. Je trouve pas que ce soit tellement l'espace du rêve, Internet. C'est plutôt la réalité qu'on se prend plein de fouet en permanence.
Alors que le cinéma, ça l'a été pour vous, Noël Herpe?
Ça l'a été. Peut-être plus encore que la littérature, d'ailleurs. Oui, j'aime les cinéastes de l'imaginaire, comme Buñuel, comme Hitchcock, Clouzot en est un, évidemment.
Éric Rohmer. Disons, j'aime avoir écrit sur
Éric Rohmer. Et c'est bien de parler d'Éric Rohmer, parce qu'il y a ce rapport à la marche. Je cite Le Signe du Lion, qui est un film de marche dans Paris, de délaissement. Il y a souvent de la marche chez Rohmer, dans Le Rayon Vert. Personnage qui marche pour retrouver un peu une foi en eux-mêmes. Oui, il y a vraiment cette dimension, quand même, d'essayer de trouver un mouvement, malgré toutes les raisons qu'on aurait de désespérer. Et je crois pas du tout que ce soit un livre de désespoir, au contraire.
Danse avec moi, brisons-nous tous les deux, et de l'instant merveilleux, fermons les yeux. Danse avec moi, profitons de l'accord. Fais vibrer nos corps, dansons encore.
Et ce matin, je suis avec Noël Herpe à l'occasion de la sortie de son livre « Souvenirs écrans, voyage en France 2017-2018 », édité par Bartilla. Et bien entendu, vous avez reconnu cette chanson, Noël Herpe.
Ah, Suzy Dolaire, l'idole de mon enfance, toujours là d'ailleurs. que j'ai d'ailleurs été visiter pour l'Expo Clouseau. Elle m'a reçu très gentiment chez elle il n'y a pas si longtemps. Et elle m'a chanté la chanson culte de Quai des Orfèvres avec son tralala. Oui, c'est bon. Bon voilà, c'est sûr que j'ai toujours eu un goût pour les actrices de cette époque. Je ne saurais m'en cacher de ces femmes de cinéma qui avaient à la fois un prestige et en même temps un franc parler, une liberté pas du tout. Me Too n'a rien inventé finalement. Suzy Dolaire dans Quai des Orfèvres, elle dit son fait aux hommes. Elle est et avec beaucoup de franchise. Clouseau a un côté d'ailleurs assez, je dirais pas féministe, mais il aime les femmes et il montre souvent des femmes qui refusent de céder aux désirs des hommes et qui refusent de céder aux hommes qui abusent de leur pouvoir. Une grande liberté, une grande revendication d'indépendance chez les femmes de Clouseau. Et ça, j'en ai souvent parlé. C'est aussi de ça que je parle dans ce livre. C'est-à-dire comment arriver à intéresser un public contemporain à des cinéastes comme Clouseau à travers des thèmes d'aujourd'hui. Je pense qu'essayer de jeter des ponts, là encore, entre le passé et le présent.
Et qui est le public de ces villes visitées? Alors, c'est en chapitre consacré à des lieux de France, ce livre, de vos voyages en France en tant qu'animateur, donc de ces projections autour des films de Clouseau, notamment. Vous êtes passé par Tremblay en France, par Niort, par Limoges, par Bergerac, par Aix-les-Bains, par Aix-en-Provence, Amiens, Cotignac, enfin tout, Nantes, les petites villes, la campagne, les quartiers, la France périurbaine, comme on dit.
Un inventaire à la Prévert,
ouais.
Ou à la Pérec.
Ou surtout à la Houellebecq.
Et à la Houellebecq, absolument. Moi, j'ai pas voulu faire un livre de sociologie, mais je crois que forcément, j'ai vu des choses de cette France comme ça, un peu tristounette dont je parlais. C'est drôle parce qu'en même temps, je me suis mis dans les pas d'un personnage. Il se trouve que bon, j'ai en même temps une activité de cinéaste et il se trouve que j'avais fait dans une trilogie de courts métrages qui sort ces jours-ci, La Fantasme et Fantôme. J'avais joué le rôle dans le premier sketch, la première pièce tirée de Courteline, le personnage d'un acteur dans un café de banlieue qui fait l'article à des clients improbables pour raconter ses succès imaginaires.
Et tout ça, c'est réalisé avec des bouts de ficelle, hein, c'est-à-dire avec une carte postale comme décor.
Absolument, et un très bon directeur artistique, Cyril Duret, qui m'avait donné cette idée de la carte postale, à la Jean-Christophe Averty, bien sûr, que j'ai rencontré à l'époque, et c'est vrai que ça, c'est une référence que j'ai eu plaisir à réinvestir. Bon, ben voilà, et donc ça m'a amusé de me remettre dans les pas de ce personnage, de l'acteur un peu miteux qui se balade un peu comme ça au milieu de nulle part. D'ailleurs, le personnage de la pièce de Courteline, Menton Bleu, va à Montmorillon et s'extasie sur le fait que tout Montmorillon était là. Alors dans mon cas, tout Montmorillon n'était pas là. Je me suis un peu consolé en buvant un peu trop de champagne. J'aime cette idée de me remettre dans les pas d'un personnage de théâtre, d'être en fait l'acteur de ma propre vie et d'être en situation avec les autres. Parce que les livres que je faisais avant étaient très introspectifs, quand même très tournés vers moi. Et là, j'essaie quand même de m'ouvrir aux autres et de partager.
Et pour dire quoi, Noël Herp? Parce que moi, j'ai lu votre livre Souvenir écran comme si c'était la carte et le territoire de Houellebecq, mais sauf que Houellebecq, il faisait ce tour de France pour montrer à quel point la France se désindustrialise, alors que vous le faites peut-être pour nous dire à quel point le cinéma ou la cinéphilie se meurt. Et que vous allez à la rencontre des derniers fantômes de la cinéphilie dans des salles plus ou moins vides, il faut le dire, non, Noël Herp?
Oui, la cinéphilie se meurt, ça c'est certain. Je suis pas le premier à le dire. Hein. Je pense que Serge Danet et d'autres l'ont dit bien avant moi. Mais c'est peut-être quelque chose de plus large que ça, quand même. C'est une certaine croyance, une certaine ce qui me frappe beaucoup quand même en baladant en France, à quel point les gens sont quand même un peu désabusés. Sont critiquent tout, sont quand même critiquent le voisin. J'ai souvent pensé que la passion française c'était la jalousie. Hein. On adore jalouser les autres. D'ailleurs, c'est le thème du théâtre français, mais c'est aussi le thème très souvent des conversations. On parle des polémiques du jour. Alors effectivement, on parle de MeToo, on parle des migrants, etc. Mais c'est très souvent dans un esprit de dénigrement. Enfin, je cherche comme ça au milieu de cette désillusion générale quand même des raisons de croire à quelque chose. Donc c'est pas simplement la cinéphilie. Je pense que c'est.
Et cette désillusion que vous remarquez, que vous faites ressortir à travers votre écriture, Noël Herp, vous avez réussi à l'analyser, à lui trouver des réponses ou du moins des...
C'est intéressant parce que ça a des raisons je dirais, à la fois politique, bon, économique, bien sûr, mais je suis pas très content quand les gens me disent, oh là là, les gens sont malheureux parce que, voilà, ils gagnent très peu d'argent, etc. Bon, il y a ça, évidemment, il y a un contexte économique qui est terrible, mais il y a aussi, me semble-t-il, une crise, quelque chose de politique et de psychanalytique, c'est-à-dire que la France est un pays qui se console plus, finalement, d'avoir perdu son prestige, qui n'a pas non plus fait la psychanalyse de ses démons politiques et historiques, et de cette manière, ça nous ramène à Clouzot, hein. Très souvent, dans ces débats, les gens me disent, mais la collaboration, etc. C'est un pays où il y a beaucoup de cadavres dans le placard, la France, et on les a pas vraiment dépoussiérés. Un pays qui meurt d'un inconscient malade, me semble-t-il, d'un inconscient pas vraiment regardé en face, ce qui est peut-être pas tout à fait le cas des autres pays européens.
De quoi vous parlez avec les publics de toutes ces villes visitées, Noël Herp? Vous parlez des films projetés ou vous profitez du film projeté, de la rétrospective Clouzot qui vous a fait voyager pour parler d'autre chose, pour parler d'aujourd'hui, pour parler d'eux-mêmes?
J'essaye. Je trouve d'ailleurs des métaphores. Par exemple, quand je parle de diabolique de Clouzot, c'est ça qui est marrant d'ailleurs, quand on trouve tout d'un coup des espèces d'idées qu'on n'avait pas forcément préméditées sur le fait que le cadavre de Paul Meurice dans les diaboliques qui flotte à la surface de la piscine, ou dont on imagine en tout cas qu'il va émerger à la surface de la piscine, ce serait justement cette culpabilité historique impossible à représenter dont je parlais à l'instant. Mais je parle aussi en effet de thèmes contemporains, je l'ai dit, j'essaie de raccrocher Clouzot au présent, mais c'est surtout après, c'est surtout dans les dîners, en fait, et que je parle avec les gens, avec les exploitants, qui se plaignent qu'il n'y a plus beaucoup de monde, que les jeunes... Ce qui revient tout le temps, en fait, et c'est une discussion fréquente, outre les discussions sur des sujets d'actualité, c'est que les jeunes ne viennent plus. Que les jeunes ne viennent plus voir de films, de répertoire, et que finalement, les jeunes s'intéressent quand même moins au cinéma. Est-ce vrai? Je ne sais pas. J'ai quand même un peu... J'ai pas de statistiques à ce sujet, mais je vois ça aussi à travers mes étudiants. Ce qui les fascine aujourd'hui, c'est Black Mirror, c'est Netflix, c'est les séries, beaucoup plus que le cinéma. L'accès facile aux images devient quand même la source de choix privilégiée. Et je ne sais pas si... Enfin, il en existe encore, bien sûr, mais j'en ai vu, hein, j'en ai rencontré. J'ai rencontré un jeune homme, par exemple, qui avait vu un garçon de 17 ans, qui avait vu tous les Clouzot, qui connaissait par cœur Mickey et sa mère, qui s'est mis à me parler de Kubrick, d'Orson Welles, etc. Donc ça existe encore. Mais cette espèce de distance dont s'enveloppaient les images animées, ce sentiment que les films étaient rares, qu'il fallait aller les chercher, qu'ils passaient une fois au cinéma de minuit. Moi, je me souviens avoir pleuré toute la nuit parce que mon père m'empêchait de voir l'année dernière Armerian Bad au cinéma de minuit, j'avais 9 ans. Vous voyez, des choses comme ça, ce caractère absolument fascinant d'un objet qui est rare et donc qu'on a envie de voir ressurgir. Évidemment, aujourd'hui, avec cette diffusion des images archi-faciles sur Internet, voilà, il y a une espèce de perte d'aura dont Walter Benjamin avait déjà parlé en son temps, mais là qui s'accélère à une vitesse grand V.
Et ça popularise aussi la cinéphilie Internet, non? Le fait d'avoir accès à tous les films quand on veut?
Oui, c'est le paradoxe aussi, c'est que pour des fous de cinéma comme moi, ou pour des plus jeunes, il y a quand même un accès aux films qu'on n'avait pas, mais... Je sais pas. Moi, j'ai vraiment ce souvenir merveilleux quand même. Je me souviens même que quand j'étais lycéen au lycée Henri IV en 1984 ou 82, il y avait un film avec une actrice que j'adorais, Gaby Morlet, et puis la cinémathèque l'avait passé à une heure où j'avais un bac blanc. J'avais appelé la cinémathèque pour leur demander s'ils pouvaient pas changer l'heure de la séance. Vous voyez, c'était des trucs incroyables. Bon, il y avait ce côté, on allait voir des films comme à la messe. Il y avait ce côté encore. Au fond, assez religieux du rapport au cinéma. Et ça, bon, c'est fini.
Je disais en début d'émission, Noël Herp, que votre souvenir écran, votre livre, donc, de vos voyages en France en 2017 et en 2018, était un peu l'antidote de ce qui se passe en ce moment au Festival de Cannes, parce que vous racontez que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, des petits hôtels dans des petites villes, les restaurants qui ferment très tôt, vous n'êtes pas accueilli avec des paillettes. Vous qui avez connu les deux mondes, c'est-à-dire le Festival de Cannes, et puis cette... cinéphilie plus discrète mais plus profonde, qu'est-ce que ça vous inspire justement de passer d'un monde où on célèbre le cinéma dans le faste à celui-ci plus intime et du coup plus pauvre, on peut le dire, on peut employer ce mot.
Bah, y a une poésie de la pauvreté. Je pense pas que j'aurais pu écrire un livre comme ça sur le Festival de Cannes. Je l'ai fait d'ailleurs un peu. Hein, je me souviens, à l'époque où j'étais conseiller de Jelly Jacob, j'avais fait un texte assez long dans une revue qui s'appelait La Lettre du Cinéma, que publiait POL, qui s'appelait Mon rythme de croisette. Et en plus, j'étais amoureux, sans espoir à ce moment-là, donc j'étais très malheureux. Et puis, je me traînais. Là aussi, il y avait un côté fantôme déjà. Hein, je me traînais un peu en picolant, d'autant plus que le long de la croisette, parce que j'avais ce statut particulier que j'étais. Je voyais tous les films avant le festival. Donc pendant le festival, je m'emmerdais un peu parce que les films, je les avais déjà vus. Donc je voyais, donc je traînais un peu dans les bars et je voyais revenir vers moi les journalistes patentés qui me disaient, ah voilà, ce film dont que tu nous as tant vanté, que tu as vu en sélection, c'est pas si bien, etc. Donc j'étais toujours un peu à côté de ça. J'ai toujours eu ce statut finalement. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les étiquettes, qui n'aime pas m'enfermer dans un rôle social. J'ai été à la fois journaliste, comédien, homme de cinéma, écrivain, etc. J'ai même fait de la radio. J'ai toujours été un peu à côté des choses. Et là, ce livre me permettait ça encore plus. Peut-être parce que, voilà, effectivement, les enjeux sont pas ceux d'un festival comme Cannes. Il y a quelque chose d'un peu dérisoire. Bon, ça me ramène aussi à un certain paysage littéraire qui est celui d'écrivains que j'ai toujours aimés, comme Jouhandeau, comme Bernanos, comme Mauriac. Il y a des moments comme ça où je me retrouve un peu dans une page de Bernanos, des crépuscules comme ça sur la campagne, des moments... Ça m'apporte au fond, c'est ce qui est pour moi malgré tout l'horizon de la littérature, c'est la confrontation au passé. Je crois qu'il n'est de littérature que dans la rencontre avec le passé. Ça ne veut pas dire que ça doit être la momification du passé, le fétichisme du passé, mais je pense que c'est... La littérature, c'est quand même ça, c'est arriver à faire revivre des émotions anciennes et à leur redonner leur fraîcheur première. J'aurais pas pu faire ça avec le Festival de Cannes.
Et les salles de cinéma, ces salles de cinéma que vous connaissez si bien à travers la France, Noël Herp, qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Les derniers vestiges du XXe siècle qui vont sans doute disparaître, ou vous pensez que ces salles vont se transformer et s'adapter aux nouvelles technologies?
C'est compliqué parce que les films, on les voit plus qu'en DCP. Quand on fait on organise des événements Facebook, on croit qu'il va y avoir du monde et puis finalement il n'y a personne. Parfois, il y a le Rotary Club de la ville qui a organisé un débat sur l'AVC en même temps. Donc c'est un peu compliqué. Ou alors une projection d'un film de Ken Loach. Très souvent, ils n'ont pas forcément prévu le coup. Moi, je m'énerve souvent aussi. Sur le moment, je m'énerve. Je m'énerve parce qu'il n'y a pas de champagne. Je m'énerve parce que je suis pas reçu avec tous les égards dus à mon nom, mais je crois aussi je me montre un peu comme un personnage ridicule, comme un Don Quichotte complètement égaré dans ce monde où il n'a plus sa place.
Avec sa valise à roulettes
qui se casse la gueule, qui parfois pendant les conférences se trompe et perd le fil de son propos, qui s'engueule avec les gens parce que les gens, quand vous parlez du mystère Picasso, c'est terrible par exemple, parce que les gens sont assez respectueux de votre expertise en histoire du cinéma, mais dès que vous vous mettez à parler de peinture ou d'art, là tout d'un coup ils croient être spécialistes. Donc là, il y a des débats sur l'expressionnisme, sur Picasso, etc., où je bats prudemment en retraite, car je n'y connais pas grand-chose. Donc il y a ce sentiment toujours d'être... De n'avoir un peu... pas rien à faire là, mais d'être dans un costume trop grand pour moi, peut-être, qui ne correspond plus à grand-chose. Alors maintenant, il y a des belles rencontres. Hein, je pense que le livre, il a un côté satirique et drôlatique, mais il y a aussi des très belles rencontres. Il y a même des moments où je tombe amoureux. Des rencontres qui ne se font pas toujours. Je crois, c'est pour ça que ça nous ramène à ce que vous disiez tout à l'heure, la solitude. Hein. Il y a quand même l'envie du contact, l'envie du lien avec l'autre. Et cette envie, elle est souvent déçue, parce que souvent les gens ne parlent que d'eux, parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils sont blasés, et parfois pas, parfois il y a des très très belles rencontres.
Pourquoi vous écrivez des livres, Noël Herp, et pourquoi vous tournez et vous réalisez des films?
Bon, c'est pas la même chose. Je fais des films pour explorer mes fantasmes, pour exprimer ces représentations qui m'ont fasciné dans mon enfance, ces représentations souvent liées au théâtre, puisque je fais des films comme Fantasmes et Fantômes qui sont liés au théâtre.
Disponibles en DVD d'ailleurs.
Voilà, chez Tamasa. Voilà, pour répéter des émotions de mon enfance, mais peut-être d'une manière un peu plus comme un musée de mes émotions. Alors que quand j'écris, il y a quelque chose qui est plus contemporain, me semble-t-il, dans mon écriture, et où j'essaie quand même de sortir de mon univers intérieur, de mon univers mental, pour aller vers les autres. C'est pas tout à fait le même mouvement. Je dirais que le cinéma serait plutôt de l'ordre du paraître et la littérature de l'ordre d'une recherche de l'être. C'est, si on devait simplifier les choses comme ça. Mais la littérature m'entraîne vers quelque chose qui me surprend peut-être davantage. Le cinéma, c'est un art de préméditation. Vous devez répéter, contrôler, construire, préméditer. Je tourne en plus généralement des films en huis clos, en studio, chez moi, dans mon petit atelier de la rue Saint-Ambroise. Donc voilà, il faut découper tout ça. Ça amène à quand même... C'est plus difficile pour moi d'accueillir l'imprévu, alors que quand j'écris, j'aime me faire des surprises. Et d'ailleurs, le livre se commence comme ça. Hein, c'est une citation de Mauriac, en fait. J'ai marché au hasard, c'est la fin de Thérèse Esquerou. La part du hasard me fascine. Hein, et ça, c'est l'écriture qui me l'apporte.
Même si vous retravaillez, je suppose, votre écriture, vos livres, Noël Herp.
Oui, je retravaille, mais pas trop. Parce que c'est quand même du journal, en fait, ou de la chronique. Donc j'écris assez vite. J'écris, j'ai une certaine discipline d'écriture. Je travaille le matin. Généralement, si j'ai pas fait deux feuillets le matin, je suis pas content du tout de moi. Donc voilà, je fais mes deux feuillets. Et puis en effet, je les relis, je les arrange. Et puis voilà. Mais ensuite, je n'y touche pas parce que c'est pour moi comme des instantanés. Et je pense qu'il faut respecter aussi ce qui s'est passé. Il faut pas essayer. Il y a des gens qui publient leur journal et qui le réécrivent après coup. Moi, pour moi, c'est une hérésie totale. Il y a quand même cette volonté de témoigner de ce qui s'est passé dans l'instant. Et au fond, je dirais d'une musique de l'instant. Hein. Chaque rencontre est porteuse d'une musique. Il y a des mouvements lents, il y a des mouvements rapides, il y a des textes qui sont très rapides, d'autres plus délayés. Et j'essaie d'être attentif à cette musique secrète de l'événement ou de la rencontre. C'est-à-dire, je pense que finalement, tout ce qui nous arrive dans notre vie, il y a un texte caché. Il y a quelque chose derrière derrière les apparences, il y a un sens caché à tout ça. Et j'essaie de le décrypter, mais sans trop le forcer non plus, parce qu'il ne faut pas trop solliciter le sens si on veut qu'il se révèle.
Voilà, le tour de France de salles de cinéma d'art et d'essai en cinémathèque de Noël Herp est à retrouver dans cet ouvrage édité par Bartia. Souvenir écran, voyage en France 2017-2018. Merci Noël Herp d'être passé ce matin.
Merci.